Mon sujet ce matin, c'est l'autorité. Franchement, j'ai beaucoup hésité avant de parler de cette question. Je me suis tâté, j'en ai discuté avec notre nouveau pasteur aussi. J'ai quand même décidé de donner ce message, mais ce n'est pas très facile. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi quand je vais vous lire le passage sur lequel je vais me baser. 1 Corinthiens 11. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Verset 7. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Verset 10. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Franchement, c'est des textes qu'on évite. Je l'ai lu, simplement, c'était dans ma lecture quotidienne. D'habitude, je passe assez rapidement dessus. Et puis, cette fois, je me suis arrêté et je me suis dit, mais non, il y a des choses. C'est étrange pour nous. Ces raisonnements rabbiniques où on discute de chef et de tête parce que c'est le même mot en grec, où on parle de tête couverte, de cheveux, de chapeau. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous, avec notre culture? C'est totalement étranger, c'est totalement bizarre. Et pourtant, et c'est pour ça que je vais en parler, ça aborde un problème absolument essentiel, fondamental, c'est le problème de l'autorité. C'est un problème fondamental parce que c'est le cœur de la révolte de l'homme contre Dieu. C'est le cœur de la révolte de Satan contre Dieu, la question d'autorité. À qui est-ce que je me soumets? Qui décide finalement? C'est vraiment central. Et on se rend compte que c'est difficile et que c'est, je dirais, délicat parce qu'on ne sait pas tellement comment gérer ça. Face à ce genre de passage, on ne sait pas comment se positionner. Et dans la réalité de nos vies, la question de l'autorité, de se soumettre les uns aux autres, à toutes sortes de niveaux, et en particulier dans le couple, c'est loin d'être évident. Notre culture aussi a une approche extrêmement, comment dire, face à la notion même d'autorité, il y a une levée de boucliers dans notre culture. Et ce n'est pas nouveau, hein. Alors j'ai quand même décidé de parler de ça parce que j'ai eu quelques idées qui me semblent apportent quelque chose. Je vais être modeste, très partiel, je vais juste dire un certain nombre de choses, et ça risque d'être déjà trop long, il faut que je fasse attention. Mais j'aimerais vous exhorter une chose, c'est ne pas se mettre en réaction. Un des problèmes de ce genre de passage, c'est qu'on lit ce passage, et puis l'homme est le chef de la femme, et crac, on se bloque. Il y a quelque chose, qu'on soit marié ou femme d'ailleurs, il y a quelque chose qui c'est délicat. Et c'est exactement le genre de choses qui nous rend difficile de lire un passage. Si on se focalise sur ce verset, eh bien, ça ira mal. En fait, pourquoi Paul parle de ça? À partir du chapitre 7 de la première aux Corinthiens, en fait, il répond à des questions que les Corinthiens lui posent. Et il y a eu la question sur les viandes sacrifiées aux idoles, il y a des questions sur le mariage, justement, et il arrive à cette question qui lui est posée. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont Paul aborde cette question. Il ne va pas tout de suite parler cheveux et chapeaux, il va commencer par poser un principe de base. C'est le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Alors, une première remarque. Paul, il est prudent. Il sait que ça peut être mal pris. Donc, il fait très attention à ne pas mettre les choses dans un ordre hiérarchique. Il ne parle pas de Dieu, de Christ, de l'homme, de la femme. Il ne parle pas de la femme, de l'homme, de Christ, de Dieu. Il mélange. Il commence à parler de Christ, ensuite de l'homme et de la femme, puis ensuite Dieu et le Christ. Christ et l'homme, l'homme et la femme, Dieu et Christ. Parce que le problème, ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas une cascade de responsabilité ou de manière d'exercer l'autorité. la leçon qu'il veut donner, elle est centrale, c'est que cette relation d'être chef ou tête, suivant les traductions, ce qu'il veut nous dire, c'est que ce soit entre Dieu et Christ, entre l'homme et la femme, entre Christ et les hommes, être tête, c'est, ça fonctionne de la même manière. L'autorité qu'on doit exercer, eh bien, elle ne varie pas, c'est à la même nature, que ce soit l'autorité que Dieu a sur son Fils, que Christ a sur chacun de nous et que l'homme a sur la femme. Être tête, être chef, ça a la même, voyez. Donc pour comprendre ce que ça veut dire dans nos circonstances, eh bien, il faut peut-être commencer, non pas par regarder l'homme et le chef de la femme, ce qui va nous mettre dans des impasses, mais regardez qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est le chef, la tête de Christ. C'est ça, là, finalement, on est appelé à être des reflets de Christ, on est appelé à être des reflets de Dieu dans le monde. Eh bien, un côté central, c'est celui de l'autorité, alors soyons le reflet de cette relation d'autorité, de chef, entre Dieu et Christ. Dieu est le chef de Christ. Quel est le rapport d'autorité, d'être chef, qui existe dans la Trinité? C'est une question, comment répondre à ça? Mais on peut répondre à ça parce qu'on a un passage dans la Bible, c'est le chapitre 17 de l'évangile de Jean, où il y a une espèce de dialogue, de prière, entre le Père et le Fils. Plutôt, c'est le Fils qui parle au Père, et il parle de leur relation, et de la manière dont cette relation se vit. Et c'est très intéressant et très instructif. Je vais vous lire juste les 3-4 premiers versets, et puis ensuite, j'essaierai de sortir un peu, qu'est-ce qu'on peut en dire. Jean 17, versets 1 à 4. Oui. Père, dit Jésus, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Bon, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire, etc. Dans ces 26 versets, les 26 versets de ce chapitre, 17 fois il y a le verbe donner. 17 fois on voit le Père qui donne au Fils. Il lui donne sa mission, on l'a vu ici, il lui donne le pouvoir, l'autorité, il lui donne, et ça revient souvent, les personnes. Les personnes, nous, on appartient à Dieu et on est donné au Christ. Il donne les personnes, il lui donne les paroles. Les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Il donne les paroles, il donne la gloire que tu m'as donnée. Il lui donne la relation, le nom que tu m'as donné. Tout vient de Dieu. Dieu est la source, voyez. Entre le Père et le Fils, le Père donne. D'abord, il donne, première chose, je le dis, c'est la mission. Ce n'est pas le Christ qui décide de sa mission, c'est Dieu qui lui donne une mission. Et le rôle du Père, ce que fait le Père, c'est de rendre possible la mission qu'il a confiée au Christ. Le Père, en donnant de cette manière, il équipe le Fils pour accomplir sa mission. Et remarquez, il n'équipe pas le Fils pour rendre facile la mission. La mission, c'est la croix. La mission, elle est extraordinairement difficile. Mais le Père donne au Fils tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et pas pour faire la mission à sa place, mais pour donner au Christ la responsabilité en faisant confiance à son Fils pour accomplir cette mission. Donc le Père donne une responsabilité. Il donne pour accomplir quelque chose. Et il donne toutes les ressources nécessaires. Maintenant, quelle est cette mission? Ça ressort un peu d'Éphésiens, bien sûr, de Jean 17, mais déjà dans notre passage, il n'est pas dit que le Père est le chef du Fils. Il a dit que Dieu est le chef du Christ. Et c'est très différent, parce que Christ, pour nous, ça ne veut des fois pas dire grand-chose. C'est un peu le nom de famille de Jésus, Jésus-Christ. Mais en fait, Christ... Essentiellement, c'est un peu plus vaste, mais essentiellement, ça veut dire roi. Il y a une des versions récentes de la Bible où, chaque fois que c'est mis Jésus-Christ ou le Christ Jésus, il traduit King Jesus, roi Jésus. Et je trouve intéressant parce que ça nous fait sentir à quel point ce terme Christ, c'est un terme de royauté, c'est un terme d'autorité, c'est un terme de domination. Loin du Seigneur, c'est vraiment celui auquel on a confié la mission de gouverner. Et c'est exactement ça. En fait, l'univers entier a été fait, conçu et voulu par Dieu pour le donner à son Fils. L'univers entier est un cadeau du Père à son Fils. Il a fait l'univers, il a créé toutes choses pour donner à son Fils ce rôle de royauté, ce rôle de gouvernement. L'univers entier est là pour la gloire de Christ et pour obéir et être soumis au Christ. Il le fait fonctionner, il domine sur lui et il bénit, mais il est pour lui. Et ça, c'est une des dimensions importantes. Dieu confie une mission à son Fils, il donne un ordre à son Fils, mais finalement, c'est pour le bénéfice de son Fils. Si Dieu donne ses ordres et chef du Christ, c'est entièrement pour le bénéfice du Christ. Ce qui lui rendra l'honneur à Dieu, parce que quand le Christ remplit son rôle dans ce monde, ben ça honore Dieu. Mais la pensée de Dieu, c'est de donner à son Fils, d'honorer son Fils. La mission est confiée pour le bénéfice de l'envoyé. Il y a une dernière composante qu'on peut retrouver dans ces passages de Jean. Ça parle d'unité et de différence. Par exemple, en Jean 17, verset 10, Jésus dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Il y a une unité profonde entre le Père et le Fils. Il est Dieu, il est un. Et c'est une chose qu'il faut réaliser, c'est que si le Père confie cette mission au Fils, une mission difficile, mais il ne fait pas une chose, il ne demande pas à Jésus une chose que Jésus n'a pas envie de faire. Ils sont un, ils sont unis, ils sont d'une même pensée. Le Fils est 100% volontaire pour accomplir cette mission. Ils ont un seul cœur pour accomplir cette mission. Ils ont des rôles différents, mais ils ont le même cœur. Et je crois que c'est aussi une des choses centrales. Être tête, ce n'est pas forcer quelqu'un, mais être tête, c'est avoir profondément la même pensée. Et une réflexion qu'on peut faire, et je crois qu'elle est importante, c'est que le Père et le Fils sont un. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ils sont les deux Dieu. Comment ça fonctionne? C'est un mystère, franchement. Mais ce qui marque, ce que je trouve peut marquer ça, c'est que finalement, s'ils sont égaux, s'ils sont identiques, eh bien, ce qui fait la différence, c'est cette relation d'autorité. C'est là que, s'ils étaient sans cette différence, si on veut, liée à l'autorité, le Père est le chef de Christ, s'il n'y avait pas cette différence, il n'y aurait pas la dynamique des relations. Il n'y aurait pas cette chose assez étonnante, c'est que, comment dire ça, l'univers, Dieu, n'est pas statique. Il est dynamique, il est relationnel. Et ce côté de relation, il nécessitait profondément cette différence de rôle, voyez, qui est liée et qui s'exprime parce que nous, on appelle l'autorité. Être tête, être chef, mais nous on appelle ça autorité. Mais c'est très important. C'est la nature même de la différence entre le Père et le Fils. Donc c'est vraiment important qu'on reflète cette différence. Si c'est, l'univers entier fonctionne de cette manière-là, parce que Dieu fonctionne de cette manière-là. L'univers est un reflet du fonctionnement de Dieu. Donc cette question d'unité, elle est vraiment importante. Cette question de différence, elle est vraiment importante. Et c'est vraiment important qu'on le fasse. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur finalement de la révolte de Satan et de la révolte de l'humanité face à Dieu. Ça tourne là autour. C'est mystérieux, je ne donne pas d'explication, mais il faut être conscient du... C'est un point crucial. Alors, on va prendre maintenant nos versets. On a vu comment Dieu est la tête, le chef de Christ. Le verset suivant, c'est dit, c'est le premier de cette séquence de trois, c'est Christ est le chef de tout homme. Déjà, première remarque, quand il est dit qu'il est chef de tout homme, ce n'est pas qu'il est le chef que des mâles. Christ est le chef de l'humanité. Il est chef de tout homme, homme ou femme. En Galates 3, il est dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. On est un en Jésus-Christ. » Christ est le chef de chaque personne dans ce monde, chaque croyant dans ce monde. Alors, il est le chef d'une autre manière, si on veut. Mais quand il est dit qu'il est le chef de tout homme, si c'est le reflet de la manière dont le Père est le chef de Christ, ben ça ne peut, il ne peut s'agir que des croyants. Alors, quels sont les parallèles? Eh bien, le Père donne toutes les ressources au Fils pour qu'il puisse accomplir sa mission. Eh bien, Jésus lui donne toutes les ressources, tout ce dont on a besoin pour remplir notre mission. Et si on pense au premier terme entre le Père et le Fils, on se dit, mais ils sont parfaits. Donc, Dieu, le Père, va donner absolument tout ce qui est nécessaire. Mais c'est la même chose pour nous. Christ est aussi parfait et il nous donne absolument tout ce qui est nécessaire pour que nous accomplissions notre mission. Rien ne manque de ce qu'il nous donne. Il nous dit « Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, on peut tout faire dans le cadre de la mission qu'il nous confie. » Alors la question qu'on peut se poser, mais c'est quoi cette mission pour laquelle Jésus nous équipe? Ben, je pense qu'il faut continuer le parallèle. Jésus, il est appelé à être le Messie, le roi. Nous, comme chrétiens, comme êtres humains dans la volonté de Dieu, on est appelé à régner, à exercer l'autorité du vrai roi dans ce monde. On est associé à Jésus, dans cette nouvelle création qui nous attend, qui est devant nous, après que, quand Dieu remettra tout en ordre, eh bien, c'est très clairement dit que les croyants, les chrétiens, ceux qui ont vécu dans ce monde connaissant Dieu, ils régneront, ils exerceront, ils jugeront le monde, ils jugeront même les anges. Nous sommes en préparation pour devenir, comme Jésus est le roi, devenir dans ce monde futur des rois dépendants de Jésus, comme Jésus est dépendant de Dieu. On est appelé à régner. Je disais, pour Jésus, c'est pour son bénéfice qu'il lui a confié l'univers. Mais ce qui fait Jésus maintenant pour nous, c'est pour notre bénéfice. Il veut nous confier quelque chose dont on ne soupçonne pas la valeur. Le monde futur sera pour chacun de nous quelque chose qui nous dépasse entièrement. Et nous sommes en préparation pour cela. Vous savez, comme Jésus, quand il a vécu sur terre, eh bien, ce n'était pas le but. Le but de Dieu, c'est pas que Jésus soit marche dans ce monde et puis finisse sur une croix dans la souffrance. Le but de Dieu va au-delà, c'est le futur. Donc, la période que Jésus a vécue dans ce monde est cruciale, elle est importante, elle a une valeur, mais elle n'est pas finale. Ça ne s'arrête pas là. Si ça s'arrêtait là, ben, ce serait catastrophique. Non, c'est un salut, c'est quelque chose pour que Dieu puisse être pleinement glorifié, pour que les hommes soient heureux. Ça va au-delà pour Jésus. Je crois que c'est la même chose pour nous. Il faut réaliser que notre vie maintenant, elle a en fait un vrai sens uniquement face au futur. On va à court terme, mais imaginez que Jésus, quand il était sur la terre, son horizon, c'était la croix. Ce serait terrifiant, franchement. Non, il y avait une vision. C'était à cause de la joie qui était devant lui qu'il a méprisé la honte, enduré la croix, dit l'Épître aux Hébreux. Mais je crois que c'est la même chose pour nous. Il faut réaliser que ce qu'on vit aujourd'hui, on le voit, nous, avec nos limites. Quand on devient vieux, on se dit, eh bien, la limite, elle approche. Mais on a beaucoup de peine à aller au-delà. Et pourtant, c'est cela. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est qu'une préparation. Une préparation au futur. Je m'arrête là pour ce verset parce que le temps passe. J'aimerais revenir au troisième terme de ce triplet. L'homme est le chef de la femme. D'abord, une première réflexion, c'est pas l'homme est le chef de toutes les femmes. C'est pas parce que je suis un homme que je suis le chef de madame, par exemple. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il faut vraiment voir que c'est quelque chose qui est au niveau du couple ici, c'est du mariage. Il y a un passage parallèle dans Éphésiens qui dit « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, c'est votre mari ». En grec, c'est le même mot qui dit « mari » ou qui dit « homme ». Comme en français, on parle de sa femme comme épouse, et puis une femme comme une femme. En grec, le masculin est la même chose. Donc, chaque fois que dans la Bible, c'est traduit « homme », ça peut se traduire pour « époux hein. ». C'est le contexte qui permet de le dire. Donc là, j'ai l'impression, dans le verset précédent, c'était très général. Ici, c'est vraiment sur le mariage. Mais est-ce que ça veut rien dire à ceux qui ne sont pas mariés? J'ai l'impression, Paul, à cause de la question qu'on lui pose, hein, c'était les Corinthiens qui lui demandaient, il va se focaliser là-dessus comme un espèce d'exemple du fonctionnement plus général des relations humaines, des relations d'autorité humaine. C'est applicable, je crois, ce qui est dit là, à toutes nos relations humaines. Pas seulement hommes et femmes, mais dès qu'il y a une relation de chef à employé, si on peut appeler, parler comme ça, tout ceci s'applique. Mais cependant, le mariage est vraiment une chose qui est au cœur de la volonté de Dieu. En y réfléchissant, je me dis, on a besoin d'un lieu ou d'une forme où on puisse comprendre quel est le système d'autorité de Dieu, ce qui est entre le Christ et son Père, comment le refléter. Il y a besoin d'un modèle. Mais j'ai l'impression que Dieu a choisi le mariage pour expliciter, pour montrer ce qu'est l'autorité selon Dieu. C'est notre responsabilité comme couple de refléter dans ce monde quelque chose de cette autorité de Dieu, quelque chose de la manière dont le Père et le Fils fonctionnent ensemble. C'est une mission qui nous est confiée, une responsabilité qui nous est donnée. Donc le mariage, c'est quelque chose de vraiment important. J'ai une réflexion là, je me suis dit, c'est bizarre, si le mariage est tellement au cœur de la pensée de Dieu, pourquoi Jésus dit que dans ce temps futur, on ne sera plus marié? Le mariage, être donné en mariage, c'est quelque chose qui aura disparu. On se dit, c'est quand même bizarre. Hein? C'est tellement central. Et puis dans le futur, ça aura disparu. Alors, je me suis posé cette question et j'ai réfléchi un bon moment parce que ce n'est pas évident de répondre à ça. Et puis je me suis dit, ben oui, je crois que je comprends. Finalement, ça veut dire que la qualité de relation que l'on a dans le couple de ce monde, ou qu'on devrait avoir dans le couple de ce monde, ce sera la qualité de relation que tous les hommes et femmes, toute l'humanité aura dans le futur. Ce qu'on peut vivre aujourd'hui faiblement, et de façon très spécifique, je dirais, entre le couple, c'est une illustration de ce que Dieu veut dans les relations entre les êtres humains. Et dans ce royaume de Dieu, dans cette terre renouvelée, eh bien, on aura des relations de connaissance mutuelle, d'intimité, d'appréciation, de communion qui sont que faiblement représentées aujourd'hui dans les relations de couple, quand elles marchent bien en plus. Mais vous voyez, je me suis dit, mais oui, le couple c'est important aussi parce que c'est un modèle du futur. Ce qu'on vit dans le couple, c'est un peu ce qu'on vivra de façon plus globale dans cette nouvelle création. Alors, je vais quand même aller un peu plus loin dans ce verset, mais je me suis dit, je suis un homme, et je vais parler plutôt du point de vue de l'homme. Alors, mesdames, vous pouvez m'écouter sans risque, je ne vais pas mettre du poids. Alors, le rôle du mari, il est donc parallèle dans ces autres versets, au rôle de Dieu vis-à-vis de Christ, au rôle de Christ vis-à-vis des humains. Qu'est-ce que faisait Dieu? Il équipait son fils, il lui donnait tout ce qu'il faut pour que le fils puisse accomplir sa mission. Ben, je crois que c'est ça notre rôle, nous, comme mari. Finalement, le mari, il est au service de sa femme. Il est au service de sa femme pour l'équiper dans sa mission. Pas dire que le mari n'a pas sa propre mission. La femme, elle a sa mission et sa relation avec le Christ. Mais nous, mari, on est là pour aider, fournir tout ce qu'il faut à nos épouses pour qu'elles puissent accomplir notre leur propre mission. On est appelé, comme Marie, à donner plutôt qu'à recevoir. Et comme le Père donne, équipe, donne à Jésus tout ce qu'il a besoin pour accomplir sa mission, je vous l'ai dit tout à l'heure, la mission est confiée à Jésus et Jésus est responsable de sa mission. Il a les ressources nécessaires, mais c'est lui qui accomplit sa mission, c'est lui qui décide d'aller à la croix, c'est lui qui suit ce chemin, qui fait ses choix douloureux tout au long de sa vie. Ce n'est pas Dieu qui le lui impose. Dieu donne les ressources, mais la décision, la responsabilité, elle est celle du Fils. Donc, pour nous, Marie, ça veut dire qu'on doit donner aussi, fournir toutes les ressources à notre femme, mais elle reste pleinement responsable pour accomplir sa mission. Et c'est à respecter cette responsabilité. Je n'ai pas à forcer ma femme à la porter, à la protéger dans tous les sens. Je lui donne ce qu'elle a besoin, ou je devrais en tout cas lui donner tous ces choses, mais lui faire confiance, lui laisser cette liberté totale que le Père laisse au Fils. Et c'est vraiment important. Parce que je disais tout à l'heure, dans le futur, cette distinction homme-femme, elle aura dans un certain sens, elle va subsister, mais ce n'est pas toujours très clair. Mais le fonctionnement n'est plus le fonctionnement du couple aujourd'hui. Comme chacun de nous, homme ou femme, on devra dans ce futur régner, dominer ce monde, juger le monde, homme ou femme, il n'y a plus cette différence. Et cependant, on est ici pour apprendre. Je vous disais tout à l'heure, on est là pour apprendre à remplir notre mission sur cette terre et puis on l'accomplira. Tout ce qu'on aura appris sera valable dans le futur. Mais femmes et hommes, les deux ont à apprendre à être responsables. Les deux ont à apprendre à régner vraiment. Vous voyez, là, il n'y a pas de différence. Le but final est le même, quel que soit le couple. Mais ça se vit dans cette relation de que le Père a avec le Fils. Il y a une différence. En tout cas, moi, ce qui m'a retenu et ce qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est est-ce que j'équipe, est-ce que je donne vraiment, je fournis à Suzy tout ce dont elle a besoin pour accomplir son service au sens très large du terme. Et ma première réflexion, c'était des fois, lâcheté, je dirais, il y a des choses que je devrais peut-être dire à Suzy pour qu'elle prenne conscience de certaines choses, et puis je ne le fais pas. Et je me suis dit, mais moi, il y a peut-être quelque chose auquel je dois réfléchir. Et puis, en y pensant, et tout à coup, j'ai réfléchi à une chose, j'ai dit, d'un côté, je l'ai fait, parce que tout au long de notre service dans cette église, Suzy a... Elle a son appel sur les enfants, elle s'est énormément occupée d'enfants, d'adolescents. Eh bien, j'ai toujours été derrière. J'ai participé dans ce... Bon, c'est pas mon truc, franchement, m'occuper des enfants. Mais j'ai toujours, pendant des années, j'ai été derrière avec Suzy pour qu'elle puisse, elle, accomplir vraiment son ministère. Je me suis dit, de façon inconsciente, mais ce que l'Esprit de Dieu produit, il m'a permis, finalement, de servir Suzy. Et je raconte ça pas pour me vanter, mais pour dire que c'est une bonne illustration de comment un mari peut aider sa femme à accomplir son service, sa responsabilité, et en la laissant libre, parce que je ne disais pas à Suzy ce qu'elle doit faire, c'est son ministère. Voyez-le, comment ça fonctionne. Un exemple simplement, mais on peut en trouver d'autres. Et chacun de nous, je pense, doit réfléchir à ces aspects-là, même. Messieurs, pensez à cela. Et les femmes, je vais quand même dire un mot. Quelle est la relation ou quelle est l'attitude dans cette relation d'autorité de Christ vis-à-vis de son Père? Il le dit tellement souvent. Il n'a qu'un envie, c'est de faire la volonté du Père. Et je crois que le fond de ce qu'est demandé à une femme, c'est d'avoir à cœur de faire la volonté du mari, de glorifier, d'encourager le mari, de faire sa volonté. C'est ça, la soumission, si on veut. Et pour Christ, ce n'est pas difficile. C'est très facile. entre guillemets, la croix, on ne peut pas dire que c'est très facile, mais de faire la volonté de quelqu'un qui est parfait. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire la volonté d'un mari qui n'est pas parfait. C'est compliqué, n'est-ce pas? Et on se rend compte que c'est compliqué, parce qu'on voit combien c'est difficile, très souvent, dans beaucoup de couples, même dans les couples qui marchent bien, comme le mien, ce n'est pas toujours si simple. Et cependant, comment Suzy peut vraiment avoir au fond de son cœur de faire ma volonté? Ben, merci Seigneur, elle est vraiment respectueuse. Mais elle l'a aussi appris. Je me souviens, au début de notre mariage, Suzy essayait de multiples manières de me piloter, en particulier dans le ministère. Quand je prêchais il y a 20 ans, ben, on en discutait et Suzy me disait « Ah ben ça c'est... » Et c'était mortel. Et un jour, elle a réalisé qu'elle me décourageait. Et elle a cessé. Vous voyez, elle a appris. Elle a fait confiance. Un autre exemple de cette dynamique, hein. Pas pour nous mettre Suzy et moi en avant, mais pour que vous compreniez un peu, sentiez un peu comment ça va se fonctionner. Mais c'est compliqué. Quel est le chemin? Ben, c'est l'unité. Pourquoi c'est si aisé au père et au fils de fonctionner ainsi? Ben, parce qu'ils ont la même pensée. Ils sont unis. Et je crois que l'autorité vraie, elle ne peut s'exercer que quand on est finalement fondamentalement d'accord. Le cœur du combat pour les couples, ce n'est pas de se forcer, mais c'est de se mettre d'accord. Et c'est un choix de ne pas confronter, mais de rapprocher. Un peu comme je vous dis, Suzy l'a fait vis-à-vis de moi il y a une vingtaine d'années. Arrêtez de forcer d'être dans la confrontation, mais rapprocher. Hier, il y avait l'assemblée de l'Église, et c'est Bjørn Aronsson qui a donné une parole d'introduction, et il a dit une chose que j'ai trouvée très juste, c'est pas pour le mariage, mais ça joue partout, c'est il faut changer nos adversaires en partenaires. Le travail, c'est quand on a quelqu'un qui est en opposition, un adversaire, ben, il ne faut pas s'opposer à lui, mais travailler pour en faire un partenaire. Et j'ai trouvé ça vraiment... c'est une bonne pensée. Changer les adversaires, les voir différemment, en partenaire. Et je crois que dans le couple aussi, c'est vraiment important, surtout quand il y a des tensions. Non, travailler au rapprochement, être partenaire. Et je voyais dans ce que je disais avec Suzy, travailler non pas à convaincre, mais à comprendre. Suzy a cessé de vouloir me convaincre, me dire, quand elle a vu qu'il fallait qu'elle me comprenne. Ça me gênait. Et travailler à comprendre l'autre, pas à vouloir le changer, mais à comprendre. Je crois que c'est une des clés importantes dans ce chemin d'unité qui rend possible vraiment cette relation-là. C'est vrai partout, hein. C'est vrai pas seulement pour le mariage. Mais c'est pas facile toujours. Cheveux et chapeau. Il faut quand même y venir. Alors, je ne vais pas essayer de décortiquer ce passage, même s'il est intéressant, franchement, mais juste deux réflexions. Paul, il dit ça en commençant par donner des instructions pour les femmes qui prient et qui prophétisent dans l'Église. Ben, si on réfléchit un peu, alors bon, il y a d'autres passages, on peut discuter de ça, mais je n'entre pas là-dedans, laissez de côté la controverse. Mais vous rendez compte, l'incroyable liberté qui était donnée dans la culture antique que les femmes dans l'Église, dans les rassemblements religieux, puissent parler et prier. Maintenant, ça nous semble presque normal, mais à l'époque, je crois qu'on sous-estime mais la révolution incroyable que c'était. Jamais une femme pouvait parler dans une synagogue. C'était incroyable. Il y a eu un changement, mais incroyable, de paradigme à cette époque. Et avec ça, quand même, on commence à parler de cheveux et de chapeaux. Une controverse sur un point, mais vraiment de détail. Et ça, je trouve, ça fait remarquer ou ça met en évidence le problème profond qu'on a vis-à-vis de l'autorité. même s'il y a une liberté incroyable qui est donnée, eh bien, on va continuer à revendiquer plus. Il y a dans le cœur humain un mouvement qui le pousse à l'exigence, à la revendication. La soumission à l'autorité, c'est toujours une pierre d'achoppement. C'est toujours quelque chose où il y aura des difficultés. Et ce qui m'avait frappé, c'est pourquoi parler d'un tel détail ? Alors même, on lui pose la question, mais pourquoi Paul insiste beaucoup ? Et j'ai trouvé une autre chose qui est étonnante, c'est que la question précédente des Corinthiens, c'était sur les viandes données aux idoles qu'on doit manger, pas manger. Et là, il est très souple, finalement, Paul. Il dit, c'est totalement secondaire, mais respectez-vous. Ici, il n'est pas du tout souple. Il dit, non, c'est comme ça. Alors qu'on a l'impression que c'est un point culturel mineur, beaucoup plus que les questions d'idoles. Ben non. Non, parce que cette question d'autorité, elle est vraiment super importante. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. C'est beaucoup plus important qu'on le pense. La question de l'autorité, c'est le cœur du fonctionnement du monde. Alors, maintenant, il y a tout cet aspect culturel qui fait que ces passages sont difficilement compréhensibles. Mais il y a une dernière leçon que j'aimerais donner là-dessus, parce qu'il m'a frappé, c'est que toute cette question d'autorité, elle est compliquée. On se rend compte dans un couple, c'est loin d'être évident. On se rend compte dans les entreprises, c'est difficile. On se rend compte dans l'Église, c'est extrêmement délicat. Eh bien, pourquoi parler de chapeau ? Ben parce que cette question de chapeau, elle est facile à régler. Ce n'est pas un problème. On se couvre la tête ou on ne se couvre pas la tête. C'est tout petit. Mais je crois que c'est un peu une ressource que Dieu nous donne, c'est qu'on peut travailler et on a à travailler finalement sur des petites choses pour que des grandes choses, des transformations profondes puissent avoir lieu. Eh bien, il faut travailler sur des petites choses, même des détails. Ces petites choses, elles sont concrètes, elles sont simples, mais elles sont beaucoup plus puissantes qu'on le pense. C'est d'ailleurs un des dangers qu'on a dans nos vies, c'est qu'on ne se rend pas compte des petits choix, des petits détails que l'on fait, les petites décisions qu'on prend. On les fait légèrement parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'elles ont des effets profonds. Des fois, ici, ça couvre la tête, mais des fois, pour reprendre cet exemple, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais Suzy qui décide simplement d'arrêter de discuter avec moi des messages que je prépare, c'est une petite chose concrète, mais ça a changé ma vie. Vous voyez, il faut être sensible. Il y a des choses qui nous semblent secondaires, eh bien, elles sont souvent beaucoup, beaucoup plus puissantes qu'on le pense, ce qui est à la fois négatif, mais qui est aussi une espérance. Parce que des petits pas d'obéissance ou de respect mutuel, des petits pas dans la bonne direction, tout petit pas, cheveux, chapeau, change vraiment les choses. L'esprit travaille sur les détails et c'est au travers des petits détails qu'on fait des progrès. Voilà. Ouf. Ouais, comme je le soupçonnais, j'ai fait trop long. On va quand même faire un court moment de passage. J'ai réfléchi, j'ai hésité parce que je me suis dit, c'est le genre de sujet dans lequel on peut entrer dans des discussions qui sont douloureuses et inutiles. Donc j'aimerais juste, on va faire un moment assez court, j'aimerais juste qu'on trois groupes, quelque chose, on repasse simplement et qu'on se rappelle et qu'on essaye de réfléchir, de se souvenir quels sont les points principaux qui caractérisent l'autorité selon Dieu. J'ai dit un certain nombre de choses, essayer de retrouver un peu ces caractères et redire un peu les caractères de l'autorité selon Dieu, simplement pour rafraîchir la mémoire et puis ce que vous pouvez réfléchir aussi ou dire, c'est quel éclairage nouveau vous avez reçu aujourd'hui sur ces points. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont flashé, je dirais, qui vous reviennent? Eh bien, un petit partage là autour. Mais évitez d'entrer dans des grandes discussions théologico-conjugales, s'il vous plaît. Mais Seigneur, on veut appeler ton esprit. C'est lui seul qui peut rendre vivant tout cela. Tu vois, on est tellement différents les autres. On a des couples différents. On n'a pas un couple pour plusieurs. Et cependant, au cœur de ta pensée, il y a cette question d'exercer notre service, avoir l'autorité. Seigneur, on a besoin de ton secours et je te prie que ton esprit nous accorde ce secours pour progresser dans une conception, dans une vie saine et juste de cette autorité, de cette relation qu'on a pour finalement, d'une manière ou d'une autre, se servir les uns les autres. Merci Seigneur, ton esprit est puissant, il peut vivifier tout cela. Et c'est ma seule espérance, c'est que l'esprit vivifie tout cela. Amen.